Or et argent en bourse, toujours pas le bon timing. Est-ce trop tôt pour se replacer après la forte correction annuelle, celle qui a démarré à la fin du mois de janvier dernier, moins 50% pour le cours de l'argent, moins 30% pour le cours de l'or. Peut-on enfin se replacer? Peut-on enfin se replacer, par exemple, à court terme, sans pour autant envisager que sur le temps plus long, eh bien, le vrai bottom cyclique déjà été trouvé. Chers amis, je vous refais un point archi complet sur tous les horizons de temps, analyse technique et fondamentaux sur le cours de l'or et de l'argent en cette semaine de réserve fédérale des États-Unis. Première partie, 6 mois de correction. Très rapidement, c'est toujours important de reprendre les choses. Les signaux d'essoufflement technique étaient présents sur les graphiques de long terme en début d'année. La puissance en analyse technique des marchés financiers, beaucoup se trompent, beaucoup me disent « l'analyse technique, c'est bien à court terme ». Mais quelle erreur ! Mais quelle erreur ! Quelle mauvaise image ! Quelle mauvaise représentation ! La représentation, d'ailleurs, c'était le sujet que j'avais eu au bac de philosophie il y a très longtemps. Je crois que j'avais 17 ans, bac philo, j'ai 44 ans. Bon, mais peu importe, j'ai gardé ça en tête, la représentation. Quelle mauvaise représentation. La force de l'analyse technique réside sur les graphiques de long terme et je vais vous le redémontrer. Alors justement, est-ce que les graphiques de long terme sont à nouveau assainis sur le plan technique après 6 mois de correction? ETF, backé sur l'or physique. Ça, c'est la clé. C'est l'hémorragie cette année en Asie. Aux States, en Europe, c'est la clé. C'est probablement peut-être le facteur le plus important pour la tendance de fond de l'or, parce que d'un point de vue industriel, la demande industrielle de gold, notamment en Chine et en Inde, c'est toujours sur une dynamique positive. Donc l'hémorragie vient des ETF, la demande financière refinancière de l'or, je vous fais un point complet dessus. Alors, j'ai commencé par le long terme, mais il y a aussi le court terme. Est-ce qu'on peut envisager quand même un rebond à court terme? Même si, sur le long terme, on n'aurait pas encore trouvé le bottom cyclique. Beaucoup hésitent. Soit ce serait... alors. D'ailleurs, à court terme, il y a un seuil technique décisif à 3 900, 4 000 dollars, je vais vous en parler. Où en est le consensus institutionnel? Qu'est-ce que les institutionnels, qu'est-ce qu'ils envisagent pour la fin d'année? J'ai toutes les dernières données. J'ai aussi les données de positionnement. Le gold est-il encore un trade géopolitique? On va regarder ça sur le plan statistique. Et bien sûr, bah, les conditions fondamentales, le top 3 à réunir pour envisager que la tendance de fond haussière reprenne pour de bon, je bien dis, pour de bon et pas qu'à court terme. Et un mot technique sur l'argent, écoutez, installez-vous confortablement, bienvenue, nouvelle édition du Fast and Forex sur les métaux précieux en bourse.
Cette émission vous est présentée par SwissQuote.
Le contenu de cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Merci à tous. Or et argent, est-ce encore trop tôt pour se replacer? Chers amis, c'est le sujet dont nous allons parler dans cette nouvelle édition du Fast and Forex. Je déclare donc la session ouverte. Laissons le rideau s'ouvrir tranquillement. Laissons le plan apparaître gentiment. Et une, et deux, et trois, et quatre, et cinq, et six, et sept parties. L'hiver dernier, un monsieur chauve, qui s'appelle Vincent Gann, avait mis en évidence des signaux techniques d'essoufflement cyclique pour le cours de l'or et l'argent en pause, s'appuyant sur des graphiques de long terme. Car les graphiques de long terme sont trop méprisés par la doxa, alors qu'ils ont une puissance prédictive que n'a pas l'analyse fondamentale, je vous le garantis. Alors, après 6 mois de correction, approche-t-on d'un bon timing pour se repositionner? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler et nous attaquons directement par, effectivement, donc, les signaux techniques d'essoufflement ont fonctionné, la force des graphiques de long terme. Je ne passe pas tout en revue, mais simplement donc pour vous rappeler donc une chose, qu'est-ce qu'un graphique de long terme? Un graphique de long terme, selon moi, c'est la représentation graphique du temps long, c'est-à-dire que je vais commencer par l'horizon de temps hebdomadaire et la véritable force des graphiques de long terme réside donc sur l'horizon de temps mensuel. Et alors oui, donc, là vous avez le cours de l'or, je suis sur une échelle logarithmique, pour bien percevoir ce que furent les sommets majeurs du cours de l'or. Vous avez eu un sommet majeur ici en 1980, et puis vous avez eu 10 ans d'orange, un sommet majeur en 2011, et vous avez eu 7 ans d'orange. Et donc, ça va vous faire flipper, mais si on a eu un sommet majeur en 2026, est-ce qu'on est parti pour 7 ans de range. Et là, vous qui espérez une envolée à 10 000 dollars, allez être déçu. C'est la question qu'on peut poser, mais effectivement, la force des graphiques de long terme, puisque en janvier dernier, le momentum du marché, représenté ici par l'indicateur technique RSI, ou représenté ici par le LMACD, mais concentrons-nous sur l'indicateur technique RSI, avait rejoint les résistances du passé, et notamment celle donc du pic ici, d'un pic intermédiaire de 1973, ce fut un pic intermédiaire, il y a eu 3 ans de correction, du pic majeur de 1980, et donc le signal d'essoufflement qui a été donné, c'est lorsque depuis une zone extrême haute sur l'horizon de temps monthly, le marché sort par le bas de la zone de surachat. Donc effectivement, lorsque l'on regarde ça, et lorsqu'on le regarde par exemple aussi l'écart au nuage Ishimoku, encore une autre approche, j'en avais plein d'autres, je ne vais pas tout reprendre, vous pouvez reprendre mes vidéos de première partie d'année pour reprendre cela, dans la playlist Fast and Forex, mais donc il y avait des signaux d'essoufflement sur les graphiques de long terme, et c'est vrai que quand on voit ça, on se dit, my god, si c'est vraiment un sommet comme 2011 et 1980, c'est pas prêt de remonter, faire de nouveaux records. Alors, ça peut quand même rebondir à court terme, bien sûr. Donc, effectivement, eh bien, les signaux techniques d'essoufflement des graphiques de long terme avaient fonctionné. Donc, ça, ce sont tous ceux que je vous ai listés en première partie d'année. Je ne vais pas tous les reprendre. Donc, ils ont fonctionné très bien. Alors maintenant, le marché corrige depuis 6 mois. Le cours de l'or a donc... Alors, attendez, on va se calculer ça. Hop, voilà. Le cours de l'or a perdu... Donc 30%, enfin 29%, et le cours de l'argent métal depuis son record, eh bien lui, donc son record de janvier, a perdu 54%. Donc moins 30% et moins 54%. À la base, cette correction donc est partie depuis les graphiques de long terme. Première question qu'on peut se poser, la situation technique de long terme est-elle assainie ? Est-ce suffisant? Retournons donc sur la représentation graphique en données mensuelles et regardons comment les choses s'étaient passées in the past. Parce que je ne voulais pas dire comment les choses s'étaient passées dans le passé. Eh bien, vous avez systématiquement, lorsque le RSI mensuel a rejeté sous cette zone extrêmement haute, non seulement un retour à la neutralité, c'est-à-dire le niveau des 50, mais le vrai bottom s'est fait lorsque le RSI est passé sous la neutralité et s'est approché de la zone de survente. Ce fut le cas systématiquement. Et là, nous ne sommes pas revenus à la neutralité, ce qui serait le minimum légal. Et regardez le LMACD, on est encore carrément aux zones de surchauffe. Donc, non. Il faudrait au minimum voir le RSI mensuel revenir là, et idéalement s'approcher de la zone de survente, pour dire que la situation technique de long terme est assainie. Cela, bien sûr, n'empêche pas des reprises à court terme. Court terme, quelques séances. Moyen terme, quelques semaines. Long terme, quelques mois à années. Vous pouvez avoir une reprise de court terme, mais dans un marché qui, sur le temps plus long, n'aurait pas encore trouvé son point bas final. Donc, non à la question de savoir... Est-ce que la situation technique de long terme est-elle assainie après 6 mois de correction? Eh bien, je suis obligé de répondre non. C'est l'enseignement de l'analyse technique du graphique monthly du cours de l'or. Alors, pourquoi? La raison principale est les ETF paqués sur l'or physique. Une hémorragie totale, toute zone géographique confondue. Mais en même temps, c'est parce que ça avait énormément monté. C'est pas, attention, ce ne sont pas des shorts, ce sont des sorties de capitaux, ce sont des outflows, ce sont des prises de profit parce que le dollar américain est fort depuis le début d'année, parce que dans tous les pays du monde, les taux d'intérêt remontent, même la Banque centrale du Japon remonte ses taux, en Asie, les pays remontent leurs taux parce qu'ils en ont marre de voir leur monnaie chuter en lien notamment avec l'actualité géopolitique. La BCE a remonté ses taux, la Fed, ça va être chaud pour elle de maintenir le statu quo d'ici la fin de l'année, nous verrons. Donc, et puis aussi, Les sorties de capitaux de l'or sont aussi un facteur d'amortissement pour des économies en Asie qui souffrent de la hausse du prix du pétrole, notamment. Donc, ce ne sont pas des ventes de gold en mode « je short », ce sont des prises de profit. Mais en même temps, ben, ça avait beaucoup monté. Et tenez, tenez, l'or, donc perd, l'or, donc là vous avez un bilan donc de la performance de l'or, même avec la performance négative de l'or depuis le début de l'année, depuis son record historique, pardon, il reste quand même en progression depuis donc un an. Donc c'est un marché qui avait énormément monté, mais en même temps, voilà, tout le monde le sait, il y avait une hausse verticale, ça c'est ce qu'on appelle un blow-off top. Ce phase-là, rappelez-vous, hein, combien de fois on a répété sur cette chaîne, la verticalité n'est pas tenable. En fait, nous ne faisons que retracer une verticalité. Les institutionnels ont gagné beaucoup d'argent depuis 2015. C'est logique à un moment ou à un autre de vouloir arbitrer, prendre des profits, sécuriser. Et ça peut être aussi des États, des banques centrales qui peuvent aussi avoir besoin d'argent pour faire face à certains chocs. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Mais la principale hémorragie sont donc les ETF. Depuis le début de l'année, il y a des outflows, toutes zones géographiques confondues. Amérique du Nord, donc là, ce sont les données sur les ETF backées sur leur physique. Amérique du Nord, Europe, Asie. Regardez ce graphique qui résume tout. Vous avez en jaune le cours de l'or. Et en histogramme bleu, vert, rose, vous avez l'évolution des capitaux sous gestion sur les ETF gold. Regardez. C'est la même courbe. Donc la baisse du prix de l'or, c'est pas parce qu'il y aurait une baisse de la demande d'or physique en Inde, en Chine, de la demande industrielle, l'industrie de la joaillerie, rien à voir. Ça reste toujours avec des bons taux de croissance, 5 à 10% par an de croissance dans ces pays. Mais prise de profit sur la demande financière, des sorties de capitaux sur les ETF d'investisseurs de long terme qui sécurisent des gains. On peut les comprendre, hein, contexte macro est incertain. Donc, dans un contexte macro incertain, dans une première partie, et ce fut le cas depuis 5 à 10 ans, c'était des achats d'or, et arrive un moment où l'incertitude est telle qu'on préfère récupérer ses billes pour voir venir. Bon. Mais c'est aussi, vous savez, un gérant ne gagne pas d'argent avec une plus-value latente. Hein, donc, il faut bien sécuriser à un moment ou à un autre, il faut bien enregistrer sa plus-value. Donc, c'est toute zone géographique, regardez, toute zone géographique confondue, il y a des sorties de capitaux des ETF. D'ailleurs, alors les ETF les plus gold les plus importants, c'est ceux des États-Unis. 263 milliards sous gestion, 185 milliards pour l'Europe, 68 milliards pour l'Asie en forte hausse. Sur le second trimestre de 2026, mais je vais même depuis le début de l'année, vous avez encore donc des entrées de capitaux en Asie. Ça, la seule zone qui baisse, ce sont les États-Unis, mais les États-Unis pesant 260 milliards, c'est plus que l'Europe et l'Asie réunies, bah, ça pèse davantage. Mais sur le second trimestre, attention, là, toutes les zones géographiques ont connu des outflows, des sorties de capitaux des ETF. Et là, me dire, mince, pourquoi l'Asie n'achète plus? Ben, l'Asie, si elle achète plus, rappelez-vous, quelle est la première région du monde qui souffre du détroit d'Ormuz? Quelle est la grande région du monde sur le plan économique? Quelles sont les grandes économies qui souffrent de la situation géopolitique que vous connaissez, qui évolue non-stop? C'est l'Asie. Voilà. Donc, et je vais vous montrer plus tard dans la vidéo, il y a des banques centrales qui ont vendu de l'or. Voilà. Mais juste à court terme, pour amortir certains chocs. D'ailleurs, si vous prenez les chiffres du second trimestre 2026, je fais un classement. Voilà. Pour voir là quels sont les pays où il y a eu des sorties de capitaux sur les ETF, la Chine, la Turquie, la Corée du Sud, la France, l'Australie, les États-Unis, le Japon, en fait, le monde entier. Mais quand vous avez les États-Unis, la Corée du Sud, la Chine, voilà, on voit que c'est global. Donc, ce sont des prises de profit, c'est aussi prendre ses bénéfices, amortir les chocs, etc. etc. Donc, si vous voulez... est-il temps de revenir à l'achat sur le gold? Parce que vous vous dites, bah mince, en Chine, en Inde, ça consomme un bordel. Moi, je vous dis, attendez un retournement haussier de la courbe des ETF. Ces données, on peut les suivre chaque semaine. C'est mis à jour chaque semaine, une fois par semaine. Ouais, pour l'instant, il y a une dynamique qui est une dynamique de sortie de capitaux. Et c'est en lien directement avec les perspectives de politique monétaire, taux d'intérêt, le dollar, la situation géopolitique, etc. Car vous allez voir qu'effectivement, là, maintenant, l'or n'est plus un trade géopolitique parce que, justement, l'or a tellement monté qu'il sert maintenant plutôt à absorber les chocs Dès lors qu'en le vendant, on a du cash. Et par exemple, ce cash qu'on récupère, ça permet de défendre sa devise. C'est notamment le cas pour de, je vais vous remontrer, hein, mais le nombre de devises en Asie qui sont sous pression. Regardez, la chute de la roupie indienne, la chute de la roupie indonésienne. Alors là, le won sud-coréen a rebondi à court terme, mais regardez sur le temps long, le won sud-coréen a fortement chuté. Par exemple, le baht thaïlandais, pareil, qui chute. Mais bon, l'exemple le plus flagrant, c'est quand même la roupie indienne. Voilà, ce sont des devises qui sont en Asie, en lien donc avec l'actualité géopolitique. Donc voilà. Alors effectivement, Hormuz et Bab el Mandeb, l'Asie et ses monnaies sont sous pression. Ça, je ne vous apprends rien. Et sont tellement sous pression que finalement, de toute façon, vous savez, avec un vrai apaisement géopolitique, avec une vraie baisse du pétrole, avec une vraie baisse des anticipations de taux d'intérêt, donc avec l'espoir de voir la Fed ne pas monter ses taux ou pas trop. Bon, voilà ce dont l'or a besoin pour enfin, eh bien, se stabiliser. Après, je vous ai montré que sur les graphiques de long terme, il reste encore donc du downside pour avoir un vrai apaisement technique. Alors, maintenant, à court terme. J'insiste parce que vous pouvez, si vous voulez, avoir un or et un argent qui ont encore besoin d'un assainissement technique de long terme pour être à l'aise, pour revenir sur le temps long, mais vous pouvez avoir des rebonds court terme ou un drop court terme. J'ai identifié. D'ailleurs, peut-être que au moment où vous allez regarder cette vidéo, le seuil sera soit aura créé le rebond, soit il sera cassé. Puisqu'il y a un décalage entre le moment où j'enregistre et je publie, et il y a aussi un décalage entre le moment où je publie et vous regardez la vidéo. Donc, retenez une chose, et je vais montrer pourquoi. 3 900, 4 000 $ sont le seuil technique immédiat décisif. 3 900, 4 000 $ sont le seuil technique immédiat décisif, et pour plusieurs raisons sur le cours du gold. Tout d'abord, 3 900, 4 000 $, c'est la Kijun mensuelle. Regardez comme on dit. Posé dessus. Ici, c'est majeur. On casse la Kijun mensuelle. C'est directement le drop à 3400. 3400 qui est l'ancien record de 1980, retraité de l'inflation. Parce que le record de 80, c'était $800. Mais lorsqu'on l'ajuste de l'inflation, eh bien, ça donne $3400. D'ailleurs, ça avait été un seuil d'accélération. En gros, le marché casse 3 900, 4 000. C'est la chute à 3 400, 3 500. Par contre, voilà, si on tient, donc je vais vous montrer donc c'est la Kijun mensuelle. Regardez comme c'est magnifique, toujours en Ichimoku. C'est le Kumo Weekly. Et on voit d'ailleurs qu'on est posé sur le 0.618 d'extension d'une structure ici en A égale C. Et que si on casse le 0.618, on va au A égale C. Et hop, incroyable, magique, le A égale C, c'est $3 400. Donc, 3 900, c'est ce seuil-là, regardez. 3 886. $3 930. $3 886, $3 930. $3 886, $3 930. Et une quatrième fois, non, je déconne. C'est le seuil de bascule. Analyse court terme, option numéro 1. Le marché tient le support et refranchit le Kumo Daily. Vous aurez un rebond en direction des $5 000. Au contraire, le marché bloque sous le Kumo Daily qui reste résistance et vous avez un marché qui casse le support, c'est la chute en ligne droite à $3 400. Donc, ce seuil des $3 900, $4 000 est décisif pour la tendance du cours de l'or à court terme. Je continue donc avec le consensus institutionnel pour le prix du gold à horizon fin d'année. Et vous allez voir que c'est passionnant parce que ce consensus institutionnel, à croire qu'il regarde les graphiques, les instits, sait-on jamais, match parfaitement avec ces gros niveaux techniques dont je vous parle. Ce consensus institutionnel, il est là. Là, vous avez la moyenne de la façon dont les institutionnels se projettent sur le cours de l'or à horizon fin d'année en fonction donc de différents scénarios. Les plus pessimistes visent, oh incroyable, 3 500, et les plus optimistes, un rebond à 4 800, 4 900. C'est exactement les seuils que mettent en avant les graphiques de moyen-long terme. Cet intervalle, alors moi je vous ai dit plutôt 3004-4008. Vraiment. Et on voit que les institutionnels les plus pessimistes se projettent sur basculer légèrement sous 3005 et les plus optimistes rebondir à 4008. Et il y a une zone centrale qui est justement autour de ce cumo d'élite du système ici beaucoup. Donc, ce sont vraiment les seuils, ce sont les seuils majeurs à surveiller ici sur le cours de gold. Vous avez donc une cassure des 3009-4000, on ira direct chercher mes 3004 et les instituts dits 3005. Par contre, on tient le support et on dépasse le cumo d'Eli. Les instituts, vous avez dit 4008. Voilà, ça serait remonté en direction de ce seuil, voilà, parce qu'on aurait dépassé le cumo d'Eli. Donc, chose, ici, je trouve, se tiennent plutôt bien. Et alors, c'est intéressant de noter le positionnement institutionnel, puisque ça, je vous l'avais déjà montré à plusieurs reprises, eh bien, sur les derniers mois, maintenant, même depuis plus d'un an, les prises de profit à effet de levier avaient commencé sur le gold, puisque là, vous avez là le rapport Commitment of Traders de la CFTC, avec le positionnement des asset managers sur les deux options et futures sur le gold. Et donc, en jaune, c'est la position nette institutionnelle, c'est-à-dire la différence entre les achats et les ventes. Et on voit, en fait, que depuis 2025, ils prenaient leur profit. Et j'observe, depuis quelques semaines, une stabilisation de la position nette. Donc, le deleveraging semble terminé. C'est-à-dire que toute cette phase de drop ici, ça a été aussi des prises de profit sur les positions à effet de levier. Ça se stabilise. Bon, pour autant, ça peut encore aller plus bas, mais ça se stabilise. C'est donc déjà, si vous voulez, les prises de profit à effet de levier sont en fait terminées. Alors, maintenant, voilà, casser ce seuil technique peut déclencher les ventes, et peut-être des ventes de prise de stop, de chasse à la liquidité. Mais ça ne serait plus, en tout cas, il y a ce facteur de baisse qui a disparu. Voilà, en tout cas, qui est assaini. C'est une bonne nouvelle. Il est assaini. Et vous avez vu qu'il avait anticipé de longue date le sommet. Donc, voilà, ça c'est toujours intéressant à noter. Je continue cette présentation. Le gold n'est plus un trade géopolitique, mais plutôt un amortisseur de choc. Et oui, effectivement, le gold, qui a longtemps bénéficié, on le voit avec une couleur bleue au-dessus de zéro, de l'incertitude géopolitique, nous sommes arrivés à un moment, vous voyez la couleur bleue est sous zéro ces derniers mois, nous sommes arrivés à un moment où en fait, l'or a tellement monté, les gains sont tellement importants, et en face de ça, il y a de l'incertitude fondamentale, liée à la géopolitique, mais pas que, que les prises de profit sur le gold sont faites pour générer du cash, et ce cash généré permet d'amortir des chocs, notamment par exemple la chute des devises des grandes économies émergentes d'Asie. Bon. Donc, l'or, en tendance de très long terme, la géopolitique, l'incertitude géopolitique nourrit l'or. Mais là, dans la phase, en tout cas cette année, l'incertitude géopolitique a plutôt créé, et je vous donne juste, ce sont des observations statistiques, a plutôt créé de la pression baissière, l'idée étant d'aller sécuriser du cash pour justement amortir des chocs global macro. Voilà, donc il faut avoir ça en tête si vous posez la question, mais je ne comprends pas, c'est chaud géopolitiquement, pourquoi l'or n'a pas profité? C'est juste qu'actuellement, il n'en profite plus parce qu'il a atteint un tel prix et une telle valeur que cette valeur eh bien, peut être transférée pour amortir des chocs. Voilà. Donc, vous regardez, je vais vous montrer d'autres. Par exemple, là, vous avez selon le World Gold Council, l'évolution des stocks d'or des banques centrales. Et par exemple, sur le début d'année, vous voyez que la Russie a vendu de l'or, la Bulgarie a vendu de l'or, la Turquie a vendu de l'or. Pourquoi ? Bah, la Turquie vend de l'or, c'est pour gérer la chute de sa monnaie, qui chute en ligne droite. La Russie a vendu de l'or pour financer son effort de guerre. Donc vous voyez, alors que ce sont des banques centrales qui ont longtemps beaucoup accumulé, mais ce sont des ventes court terme. Vous avez là en fait une conjonction d'explications du fait que l'or depuis le début de l'année soit à moins 30 et que l'argent soit à moins 50. Donc les conditions primaires pour reprendre la tendance haussière de fond. Ces conditions primaires, déjà, puisque la correction est partie des graphiques de long terme, il faut des graphiques de long terme assainis. Voilà. Donc, je vous renvoie à la première partie de la vidéo. Vous avez vu qu'on n'a pas encore atteint cette situation. Mais il peut y avoir des rebonds court terme malgré tout. Vous avez compris qu'à court terme, le seuil technique décisif, c'est donc 3 900-4 000 $. Maintenant, les conditions primaires pour reprendre la tendance. On peut en lister beaucoup. D'ailleurs, mon tableau va en lister beaucoup, mais il n'y en a que 3 pour moi qui comptent. Et d'ailleurs, j'ai fait une partie spéciale. Je vous ai remontré les dernières données sur l'hémorragie des ETF baquées sur leur physique. Les conditions primaires. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pour moi, il y en a 3 qui comptent. Première, la baisse des anticipations de hausse de taux de la Fed, mais aussi de toutes les banques centrales. Puisque ça monte les taux au Japon, ça monte les taux en Asie, la BCE a monté ses taux, la Fed pourrait le faire. Ou pas. L'or reprendra sa tendance de fond quand les banques centrales confirmeront des statu quo, voire la reprise des baisses de taux. Et ça, c'est lié au prix du pétrole à la géopolitique. Le retour des investisseurs à long terme, c'est les ETF. Vous avez vu la corrélation parfaite entre le prix de l'or et les actifs sous gestion ETF, toutes zones géographiques confondues. Et je vous ai montré que sur le second trimestre, ça baisse en Asie, ça baisse aux States, ça baisse en Europe. Mais ce retour des investisseurs long terme sur les ETF, c'est probablement le facteur fondamental dominant. Et eu égard au fait que les ETF américains sont dominants, et lorsque vous interrogez les gérants américains, lorsqu'ils vont sur les ETF gold, c'est parce que le dollar baisse, il faut un dollar plus faible pour à nouveau que la haute finance américaine s'intéresse aux ETF gold. Il y a bien sûr d'autres raisons, mais j'estime que ces 3 raisons ici que j'ai mis en vert sont les plus importantes. Alors, chers amis, après avoir vu tous ces arguments, peser le pour et le contre, or et l'argent, selon vous, est-ce enfin ou non le bon timing pour se replacer ? Merci à toutes et à tous de votre attention.
Ce contenu est informatif et éducatif destiné aux personnes connaissant les marchés financiers. Il ne constitue pas un conseil en investissement, juridique ou fiscal. Le trading et l'investissement comportent des risques, notamment la perte de capital. Les CFD et actifs numériques sont volatiles et ne conviennent pas à tous. Swissquote décline toute responsabilité quant à l'exactitude du contenu ou aux pertes liées à son usage. Produits et services disponibles selon la législation en vigueur.